Vous écoutez
RMC.
Vous écoutez
RMC.
Pour nous, l'occasion de nous projeter évidemment vers ces Jeux Olympiques 2030. Qui sera le président du comité d'organisation? Cela fait des mois que cette question reste sans réponse. La désignation du président a déjà été maintes fois repoussée. Il faudra attendre encore un peu. En début de semaine, vous le savez, Martin Fourcade, le grand favori, les GG, a jeté l'éponge pour ne pas sacrifier ses convictions. La course au plan B est lancée, tandis que le CIO commence vraiment à s'impatienter. On va prendre toutes les informations et après on va vous écouter évidemment les GG. Avec notre spécialiste sur ce dossier, c'est Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Mais c'est vrai que la semaine, Nicolas, a été chaotique.
Oui, la rumeur d'un retrait de Martin Fourcade courait depuis le week-end dernier, mais lundi matin, la nouvelle tombe. La star du biathlon français se retire et ne sera pas le prochain patron des Alpes 2030. Certains accusent le coup, notamment dans le camp de Michel Barnier. D'autres sont dans la communication, comme le très impliqué Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire et ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pourquoi Martin Fourcade n'a pas voulu des JO? Bien sûr qu'on voulait de Martin Fourcade. On s'est tous mis d'accord. J'étais encore en lien avec Martin avant-hier. Pour nous, tous les signaux étaient au vert. Après, je respecte la décision de Martin. Et ce que je veux surtout, c'est que dans ces jeux, l'objectif, c'est que la star, ce soit les Alpes françaises.
Remercier Martin Fourcade, mais ce qui est clair, c'est que Laurent Wauquiez n'a jamais voulu du biathlète à la tête du comité d'organisation. Des guerres internes où se mêlent politique, business et influence régionale. Ce garçon nous promène depuis le départ, affirmé sur RMC, Renaud Muselier, le président de la région PACA. Du côté du ministère des Sports, Marie Barsac ouvre déjà la porte aux autres candidats.
Le retrait de Martin Fourcade a ouvert les envies et c'est bien. Nous, on est ravis de pouvoir avoir le choix. Pour nous, ce qui est important en tout cas, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment du milieu du sport, qui a l'ADN du sport chevillé au corps, parce que pour nous, le sport est très rassembleur. Et effectivement, il y a des candidats.
Et selon nos informations, l'un des grands favoris pour prendre la tête de ce COJOP 2030 est Edgar Gros-Piron, le champion olympique des Jeux d'Albertville en 1992, est un homme de la région et qui connaît parfaitement les arcanes du CIO. Il coche plusieurs cases dans le profil idéal pour devenir le Tony Estanguet 2030. Sur RMC cette semaine, il se dit prêt à prendre les commandes.
Moi, je suis en train d'étudier, de rencontrer, d'échanger avec des gens. Moi, j'ai tout un réseau aussi, donc pour me faire une opinion sur est-ce que j'ai envie d'y aller, pas quoi. Enfin, est-ce que ça m'intéresse? Et je veux le faire vite parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. J'ai pas de temps ni moi à perdre, ni surtout à faire perdre aux uns et aux autres. On m'a demandé si j'étais intéressé. À partir du moment où je dirais oui, voilà, après c'est la décision du bureau exécutif.
La tête d'affiche du projet sera normalement secondée par un ancien sportif. Un ticket avec l'ancien skieur Luc Alphand pourrait contenter tout le monde. En coulisses, certains essayent encore de pousser plusieurs noms. On est très loin de l'esprit de Paris 2024 et de la rigueur autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutes les parties prenantes Nantes espère un nom avant le 18 février, date officielle du lancement du comité d'organisation.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier. Nous parlons des Jeux Olympiques 2030 et de cette difficulté pour le comité d'organisation de trouver son président. Martin Fourcade a jeté l'éponge en début de semaine. Évidemment, on en parle tout de suite dans les grandes gueules du sport. Juste vous dire que Nils Allègre est toujours en tête de la descente des mondiaux en Autriche à Saalbach. On retrouvera Sébastien Amier et Léna Marjac dans quelques instants, nos envoyés spéciaux. David Douillet, entrons dans le vif du sujet. Vous avez entendu ce reportage de Nicolas Pelletier. Comment ça s'est passé en 92 avec un sportif et un politique qui travaillait de concert? Quel est ton regard sur cette situation, David?
Il est temps et je crois que il y a eu des annonces de fête pour dire que à partir du 18 février tout le monde sera fixé et si on outrepasse encore ces dates là, pour le coup, on va commencer à rentrer dans le ridicule et perdre de la crédibilité. La décision de Martin lui appartient. Je veux même pas penser qu'on est rentré dans le bal des faux culs, parce que certains politiques ont annoncé une guerre qui s'est déroulée, puis ensuite on dit l'inverse. Bon, on voulait Martin, mais c'est lui qui veut pas venir. Enfin, tout ça, mes petits réflexes me permettent de dire que là, on a peut-être un double discours qui fait que on n'est pas sur forcément un excellent terreau pour démarrer cette organisation, ce COJO. Malgré tout, on a un banc, on a parlé d'Edgar, on a parlé de Luc, et il y en a d'autres, Edgar Gros-Piron. Donc on a un banc qui est solide. Donc voilà, on a des gens de qualité qui seront à même de conduire cette candidature. Après, Est-ce qu'ils auront la personnalité? Je me permettrai un seul conseil. C'est le politique en numéro 2 et le sportif en numéro 1, et que les choses soient extrêmement claires.
Je suis même voilà. pas si t'as et besoin d'établir une hiérarchie, parce qu'en 92, les deux hommes étaient sur la même ligne. Chacun était dans son job, et ils l'ont très bien fait, mais ils n'avaient pas d'ambition politique, Barnier, quand il est arrivé.
Mais alors que là,
aujourd'hui, tu sens très bien que Wauquiez, cette candidature, doit lui permettre derrière de devenir présidentiable, tu vois, s'il réussit le truc. Muselier, peut-être pas, parce qu'il n'a pas l'envergure pour être présidentiable, mais il veut s'en servir aussi de tremplin politique. Donc aujourd'hui,
c'est la raison pour laquelle je fais la précision.
Ils n'ont pas les personnalités, ils n'ont pas le même poids qu'avait un Barnier en 92. Et puis Barnier et Killy, ils avaient pris la candidature à son départ. C'est eux qui avaient lancé l'idée en 81. C'est eux qui sont allés défendre leur candidature en 86 et ont obtenu du CIO et de Samaranch d'obtenir l'organisation des Jeux. Et ils ont toujours travailler en binôme et ils sont arrivés à cette.
Mais comme Tony Estanguet pour Paris 2024.
Pareil pour Tony Estanguet.
Alors que là, ça se fait d'abord avec les politiques, puis après
tombe tout cuit dans le bec et maintenant il faut trouver des gens pour le faire. Évidemment qu'il y a des sportifs qui sont en capacité de le faire, mais il faut aussi des techniciens parce que Estanguet, il a appris son métier. Là, on va débarquer, enfin parachuter, que ce soit un politique ou un sportif, les gens ils connaissent pas forcément le dossier parfaitement. Il y a des choses à faire pour que ces jeux ne soient pas ridicules. Parce que là, pour l'instant.
Là, tu te trompes, là.
Ouais, là, tu me trompes peut-être. Mais pour l'instant, on est ridicule.
Non, mais je suis désolé. Non, on n'est pas ridicule. Ouais, les garçons comme Edgar, ou Luc, ou les autres, ont participé aux Jeux Olympiques, à la fois devant, sur la neige, comme derrière un micro, et derrière le système d'organisation, ils le connaissent parfaitement, l'univers. Ouais. Donc là, ils le connaissent d'une manière beaucoup plus. Ils le connaissent d'une manière beaucoup plus précise que n'importe quelle politique. Ça, je te le dis, il n'y a pas débat. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens qu'aujourd'hui, il faudra qu'ils aient la force et la.
Vous avez la science infuse. Parce que t'es un grand champion, t'as la science infuse et tu sais organiser un événement mondial comme ça. Tu sais tous les enjeux de sécurité qu'il faut mettre, tu sais les budgets, les trucs. Tu le sais tout parce que t'es sportif de haut niveau. C'est ça que t'es en train de me dire, David.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que lorsque tu participes, quand t'es à l'intérieur de la machine, en tant que participant et en tant que spectateur, mais à l'intérieur de la machine, t'as beaucoup plus d'éléments que n'importe qui d'autre. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Okay. Et c'est simple, et c'est clair, et c'est net.
Moi, je voudrais revenir aussi.
Il faut avoir de l'appui et il faut avoir de les épaules pour être devant, pour pas se laisser gangréner par les politiques qui vont aussi tirer profit. Et ça, c'est une catastrophe.
Oui, ça serait une catastrophe. Est-ce que tu penses, ça on est tous bien d'accord, mais est-ce que c'est possible encore pour quelqu'un qui, comme le dit Christophe, à un moment donné va être parachuté et n'était pas forcément l'un des favoris à cette course? Edgar Groupiron, il vient de sortir de
ce plateau maintenant. Mais ça prend pas son poids quand t'arrives comme ça et que t'es parachuté. C'est quoi ton poids? Et je suis d'accord avec toi.
Ton poids, c'est le CEO. C'est le CEO qui est derrière toi.
Que tu connais mieux le truc. Pour moi, ça paraît
très compliqué. Ton poids, c'est le CEO qui est derrière toi et le Comité National Olympique, normalement. Les deux coupés, c'est ça.
Mais en fait, ils attendent justement un candidat avant d'être derrière lui. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, David.
Non, c'est pas quelqu'un qui propose.
En tout cas, moi j'ai un.
Il militait pour. Pardon, si j'ai bien lu ce qui s'est dit. Il militait pour des candidats différents, Muselier.
Ouais.
Ben oui.
Ils avaient chacun leur poulain. Renaud Muselier, c'est Marie Martineau. Et Wauquiez, c'est Vincent Gé.
Malgré tout, la candidature de Fourcade faisait consensus et Fourcade a décidé de décliner. À partir de ce moment-là, je souscris à ce que dit David. Ce qu'il faut surtout, parce que ils sont pas ridicules, il y a pas le feu quand même. C'est dans 5 ans. D'accord. Donc le 18, ce sera suffisamment tôt pour avoir un président du COJO et un bon président choisi.
Le CIO, ça patiente un petit peu, Pascal. Quand même,
que ce sportif ait les coudées franches. Ça, je rejoins David. Il faut qu'il y ait un patron.
Il y a le problème aussi de ces jeux.
Je vous rappelle l'exemple de
Sébastien
Coe pour les Jeux de Paris 2012. Il arrive en cours de route, le PPR. D'accord.
Ah ouais.
Ok.
Il est arrivé un an avant la fin.
Et il
s'est imposé comme taulier et il a organisé les Jeux.
Non, il est arrivé un an avant la désignation de Londres. et ensuite il a
voilà,
eu toutes les
années.
Ah, bah oui, c'est comme si Fourcade avait été nommé président du conseil du Beaujolais il y a un an, tu vois. Donc c'est pas tout à fait. Le seul problème, c'est aussi c'est que c'est mal fagoté cette histoire, parce que il y a trop d'enjeux, il y a trop de régions qui sont dans cette organisation.
Tout le monde veut savoir.
Le nombre de stations, de villes. Aujourd'hui, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Certaines villes qui n'ont pas été servies essayent de récupérer un truc. Je pense que l'unité de lieu ou de département aurait vraiment été un plus. Là, on a voulu faire un peu plaisir à tout le monde, et du coup, c'est encore plus compliqué.
Tu sais, le coût d'organisation de ces jeux, il est significatif. Et aujourd'hui, je suis pas sûr, en tout cas en France, qu'une seule et même région ait les moyens d'organiser ces jeux, de supporter tout ça. Donc le fait de ventiler sur deux régions me paraît tout à fait intelligent.
En tout cas, ceux d'Albertville ont coûté cher, mais ils ont permis à une région, la Savoie, de se développer en termes de tourisme. Je pense que on mesure pas encore les retombées qu'ont pu avoir ces jeux. Bastoun, qui est avec nous, peut nous en parler. Il fait la route tous les jours, mais pour aller à Praslin aujourd'hui, t'as une autoroute, t'as des TGV qui arrivent jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Enfin, je veux dire, toute la région a été désenclavée. C'était une tannée pour aller dans la Tarentaise ou dans la Maurienne avant les Jeux d'Albertville, et aujourd'hui tout ça a permis ce développement du tourisme de manière incroyable.
Bah justement, Bastoun est avec nous. Bastoun, un mot sur ces Jeux Olympiques 2030. Est-ce que toi, en tant que sportif, quand tu vois que les choses traînent de plus en plus, est-ce que ça t'inquiète un peu?
Alors,
oui, on t'entend.
Attendez.
On t'entend. Alors, Bastoun? Oui, on t'entend très bien.
On est sur les Jeux 2030?
Oui, exactement. Oui, Bastoun.
Il y a du monde, ouais. Mettez-vous dans la place. C'est un Autrichien, Chris Mayer, qui est en tête. Donc, quand t'as 50 000 spectateurs qui hurlent derrière, c'est pas simple, même dans les écouteurs.
Je comprends. Non, je te demandais juste si ça t'inquiétait, là, les JO 2030 et le comité d'organisation.
On est un peu inquiet, comme le ski français en ce moment. Non, mais oui, c'est des tensions, on perd du temps. On perd du temps sur des postes qui auraient déjà dû être définis depuis un petit moment, puisque l'annonce a été faite maintenant il y a un an et demi quasiment, un peu plus d'un an. Voilà, Martin a étudié la question et a priori ça lui convenait pas. Est-ce que au niveau politique ça coince? Maintenant il faudra vite trouver une solution pour régler beaucoup de problèmes, parce que tout ce qui est la logistique de mise en place maintenant pour les infrastructures, bah plus tu perds du temps et plus on va être à la course. Donc faudra vite accélérer la démarche et le poste à définir.
Tu parlais de course, justement, Léna Marjac, Nils Saleg, notre Français n'est plus en tête. Hein.
Non, il est plus en tête et vient juste à l'instant d'être sorti même du podium, parce que c'est un Suisse, Franjo von Almen, qui vient de prendre la tête de cette descente ici, juste devant un Autrichien, Vincent Krichmayr, et un autre Suisse, Alexis Monet. Mais là, Bastoun, on a affaire à une très belle descente, parce que depuis le début, on a des hommes qui claquent énormément et c'est beau à voir.
Oui, puis ça s'accélère, hein, tous les skieurs qui étaient attendus aujourd'hui répondent présents. Krichmayr, que ce soit Van Almen, même Nils Allègre, hein, a fait une très belle course, hein, même si voilà, les autres ont tué un petit peu la course. Il a fait une course solide. Il est quatrième provisoire ex aequo avec un Américain. Mais le favori Odermatt arrive avec le Dossard 13 dans quelques instants.
Donc Nils Allègre quatrième, un petit point sur les Français. Maxence Musaton, lui, huitième, et Adrien Théo, onzième. Et on en aura un quatrième tout à l'heure. Ce sera Nils Alphand avec son Dossard 23-22. Mais on va évidemment suivre le champion du monde en titre, Marco Odermatt, dans quelques instants.